En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Merci Xavier et aux autres princes. Et puis c'est très beau, je me réjouis que vous puissiez comme ça retrouver le fait de vous retrouver, de vous rassembler. Et donc vous êtes dans un cadre de réflexion sur la pauvreté, c'est ça? Et ça n'est pas par goût de la provocation que nous allons donc parler ce soir de l'économie et de la finance. Alors j'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'économistes parmi vous, parce que moi mes restes d'économie remontent à la terminale. Mais en fait, par un projet dont je vous parlerai peut-être, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à toutes ces questions. Donc, sous l'angle de la doctrine sociale de l'Église, j'espère que l'intitulé... Est-ce que pour quelqu'un, il faut préciser ce qu'on entend exactement par doctrine sociale de l'Église, ou c'est clair pour tout le monde? Très bien. Et donc, en fait, via un produit financier que la communauté Saint-Martin a mis au point avec d'autres institutions catholiques pour le financement de la formation des séminaristes, et du coup, étant donné le manque dans le discours de la doctrine sociale de l'Église sur cette réalité de la finance, du coup, j'ai été amené à m'y intéresser un peu. Donc, vous avez aussi les textes. Le but aussi, c'est de découvrir cette doctrine sociale qui souvent est un peu méconnue. Et j'espère que ce ne sera pas trop fastidieux de lire ces textes. Enfin, on ne va pas les lire en intégralité, mais vous verrez qu'il y a quand même des formules qui sont vraiment bien ciselées. Donc, le sens de l'activité économique et financière, donc d'après la doctrine sociale de l'Église, comme une réponse au défi de la pauvreté. En introduction, d'abord, quel regard cette doctrine sociale porte sur la pauvreté économique, c'est ça qui va nous intéresser. C'est vrai qu'il y a une multiplicité d'approches de la pauvreté qui reflète la réalité elle-même multiforme de la pauvreté, d'où le fait que la notion de pauvreté est vraiment une multitude de sens qu'il est d'ailleurs difficile d'ordonner. L'an dernier, avec une aussi de vos prédécesseurs, avec Anne-Claire Nozier, voilà, qui je crois était princesse, bien sûr. Voilà. Princesse donc émérite, on a fait une session, je ne sais pas si vous avez entendu parler des sessions de la Rose Blanche, qui sont des sessions auxquelles le Père Flas a eu l'occasion de participer, et on avait pris comme thème justement la pauvreté, et on s'est rendu compte que c'était difficile d'en faire la synthèse, sauf quand on s'appelle Anne-Claire Nozier, et qu'on parvient comme ça, de manière très brillante, à essayer de réunir tous ces sens, parce que c'est vrai que ça n'est pas simple de s'y retrouver. Et donc même le sens en fait, de la pauvreté économique est lui-même compliqué à définir, parce qu'à l'intérieur des sciences économiques et sociales, il y a un débat immense pour savoir exactement ce qu'on entend par pauvreté économique. Dans les textes de la doctrine sociale, il sera compliqué de trouver par conséquent un sens de la pauvreté, enfin un sens, une définition, la pauvreté économique et sociale, mais c'est sans doute pas nécessaire pour ce qu'on a à dire ce soir, parce que pour l'instant, ce que je retiens de ces textes, c'est une orientation, c'est une attitude, un regard qui, pour faire vite, identifie la pauvreté économique comme une réalité qui est à combattre, qui est à surmonter, qui est à faire reculer. Alors ça, je vous ai mis, pour commencer, un texte extrait d'une instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi, une instruction des années 80, qui s'appelle donc Libertatis Conscientia, et qui apprenait sur cette question de la pauvreté et sur toutes les questions économiques, prenait un relief particulier, puisqu'on était dans le contexte de l'émergence de la théologie de la libération, enfin des théologies de la libération, principalement en Amérique latine, et donc le Vatican, enfin le Saint-Siège, avait été obligé de se positionner sur ce sujet-là, et effectivement ça mettait en jeu toute la vision que le christianisme, que la foi catholique en tout cas, avait de la pauvreté économique. Et de ce point de vue-là, ce que je retiens surtout, hein, c'est donc le début de ce texte. Hein. Jésus n'a pas seulement apporté la grâce et la paix de Dieu, il a aussi guéri d'innombrables malades, il a eu compassion de la foule qui n'avait rien à manger, il a nourri, il a pratiqué l'aumône avec les disciples qui le suivaient. La béatitude de la pauvreté qu'il a proclamée ne peut donc aucunement signifier que les chrétiens puissent se désintéresser des pauvres dépourvus de ce qui est nécessaire à la vie humaine en ce monde. C'est une première approche de la pauvreté, être dépourvu de ce qui est nécessaire à la vie. Fruit et conséquence du péché des hommes et de leur fragilité naturelle, cette misère est un mal dont il faut autant que possible libérer les êtres humains. Voilà. Et et ce terme de libérer, bien sûr, prenait un sens particulier dans justement cette évaluation de la plus ou moins grande pertinence des différentes théologies de la libération. Et donc, je voyais le texte suivant, je vais au milieu du paragraphe. C'est pourquoi ceux qu'elle accable, donc ceux que la pauvreté accable, sont l'objet d'un amour de préférence de la part de l'Église. Donc c'est le fameux thème du magistère de l'Église sur l'amour préférentiel pour les pauvres, l'option préférentielle pour les pauvres. Donc la pauvreté que, enfin ceux que la pauvreté accable, sont l'objet d'un amour de préférence qui, depuis les origines, donc l'Église, en dépit des défaillances de beaucoup de ses membres, n'a cessé de travailler à les soulager, les défendre et les libérer. Elle l'a fait par d'innombrables œuvres de bienfaisance qui restent toujours et partout indispensables. Et ces œuvres de bienfaisance étaient parfois l'objet de la critique, justement, de certains, disant que c'était une sorte de comment on appelle ça, de pansement sur une jambe de bois, enfin que ça ne réglait pas le problème de la pauvreté. Puis, donc par sa doctrine sociale, qu'elle presse d'appliquer, l'Église a cherché à promouvoir des changements structurels dans la société afin de procurer des conditions de vie dignes de la personne humaine. Donc, ce que je retiens, c'est encore une fois cette orientation, cette attitude intérieure consistant à dire que la pauvreté est globalement une réalité à faire reculer. Alors, dans un magistère plus récent, celui du pape François, on trouve aussi une expression qui est souvent utilisée par les textes du magistère concernant la pauvreté, où il est dit ceci, hein, c'est dans Evangelii Gaudium, je ne vous l'ai pas mis, je crois, là, sur le recueil de textes, c'est dans Evangelii Gaudium, donc la première exhortation apostolique du pape François, dans laquelle il parlait de la nécessité de résoudre les causes structurelles de la pauvreté. Souvent, c'est ça qui est visé. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'éliminer la pauvreté au sens où le gros problème de ce programme-là, c'est que ça passe malheureusement parfois par le fait d'éliminer les pauvres. Et ça, ce n'est vraiment pas l'objectif de l'Église. En revanche, il s'agit de combattre les causes structurelles de la pauvreté. Donc, je cite le pape François, hein, « La nécessité de résoudre les causes structurelles de la pauvreté ne peut attendre. » Non seulement en raison d'une exigence pragmatique d'obtenir des résultats et de mettre en ordre la société, mais pour la guérir d'une maladie qui la rend fragile et indigne et qui ne fera que la conduire à de nouvelles crises. Ça, c'est le premier point que je retiens en introduction, c'est cette orientation. Deuxième point, c'est comment la mettre en œuvre, comment faire face, en fait, à cette réalité qu'est la pauvreté économique. Une fois qu'on a identifié cette attitude, il faut se demander comment s'y prendre, que faire, quels sont les moyens dont l'Église pense que les hommes disposent pour parvenir à cet objectif. Et sous cet aspect, il est intéressant de voir que le texte que je viens de vous lire d'Evangelii Gaudium fait partie d'un ensemble de paragraphes qui commence par un sous-titre qui est le suivant, hein, « Économie et distribution des revenus ». Donc ça veut dire que oui, bien sûr, il y a l'aumône, il y a tout un tas d'actions de bienfaisance, mais en fait, du point de vue de l'Église, c'est l'économie elle-même qui est conçu comme ce qui va permettre d'affronter le défi de la pauvreté. C'est une des nombreuses réponses qui peuvent être apportées à cette question de savoir quoi faire pour que le regard de l'Église se transforme en action, l'économie sous toutes ses formes, et justement considérée par l'Église comme un moyen de faire face à la pauvreté. On trouve par exemple dans le paragraphe qui suit, celui que je viens de vous lire, là, qui est numéro 202 d'Evangelii Gaudium, cette phrase du pape François qui peut parfois surprendre, et qui peut en surprendre certains, étant donné l'image qu'ils ont l'attitude globale du pape François à l'égard de l'économie et de la finance. Le pape François dit ceci: la vocation d'entrepreneur est un noble travail. Donc c'est beau, il parle d'une vocation, on y reviendra, et il n'y a pas du tout de déconsidération de l'entreprise. Au contraire, la vocation d'entrepreneur est un noble travail. Pourquoi l'économie est-elle à même d'offrir des solutions à la pauvreté? En première approche, pour une raison assez simple, et qui est donnée par la définition que donne de l'économie le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2426, je cite, « Le développement, je ne vous l'ai pas mis sur le recueil, pardon, le développement des activités économiques et la croissance de la production sont destinés à subvenir aux besoins des êtres humains. » Le sens de l'économie et non seulement de la production, mais même de sa croissance, c'est de subvenir aux besoins des êtres humains. Or, si l'économie donc permet, et même a pour sens de permettre aux hommes de subvenir à leurs besoins, alors, et en plus étant admis que une des caractéristiques du pauvre, c'est de celui qui est, je dirais, saturé de besoins, en fait, qui est dans le besoin, alors il est clair que l'économie trouve sa place dans ce dispositif, parce qu'elle est justement ce qui permet aux hommes de satisfaire leurs besoins, et donc peut-être aussi d'aider ceux qui sont dans le besoin à sortir de cet état. Alors certes, il faut faire une distinction entre avoir des besoins et être dans le besoin. Tout le monde a des besoins, mais tout le monde ne vit pas dans le besoin. Mais dans tous les cas, il est question de besoin, et s'il est question de besoin, alors l'économie est compétente pour apporter son concours au fait de répondre à cette problématique. Troisième moment dans cette introduction, quelle est, étant donné cette place du besoin, quelle est la vision qui est celle de la doctrine sociale de l'Église, cette vision, enfin la vision qu'elle a celle et de l'économie et de la finance? Eh bien, en fait, c'est de chercher à dépasser cette notion de besoin, tout en l'intégrant, et en faisant voir, et ce sera notre premier moment, c'est pour ça, oui, je vous ai mis les titres, en faisant voir en quoi l'économie se justifie, non pas simplement parce qu'il s'agit de répondre à des besoins, mais parce qu'il s'agit de répondre à une vocation. Ce sera le premier moment. Le deuxième moment, ce sera un moment qui cherchera à voir les liens entre économie et éthique, donc entre les biens et le bien. Je vous l'ai mis, hein, je pense, le titre. Et puis, le troisième moment sera consacré à la question de savoir quelle est l'appréciation de l'Église sur ce qu'on appelle, enfin, sur le capitalisme, une forme qu'a prise l'économie donc à l'époque moderne et plutôt contemporaine. Donc, premièrement, l'économie et la finance donc répondre à une vocation. Alors, pourquoi parler de vocation? Parce que, donc, nous le savons tous, la vocation, c'est un appel, et que cet appel se trouve dès les premières pages de la Genèse. C'est un appel donc donné par Dieu à Adam et Ève, cet appel donc à dominer la terre, à la soumettre, c'est-à-dire, bien sûr, hein, non pas comme souvent ce texte est compris, non pas bien sûr à en faire n'importe quoi, mais être vis-à-vis de cette terre ce que le Seigneur est à l'égard de la terre et du ciel, le Seigneur du ciel et de la terre. Eh bien, l'homme est chargé, lui, d'être un relais de cette seigneurie de Dieu sur la terre, et plus précisément, c'est ce qui est dit au début du chapitre 2, il est appelé à cultiver et à garder le jardin. Donc il est clair qu'il n'est pas créé dans l'oisiveté. Il y a, dès avant, bien sûr, le péché originel, une vocation de l'homme, de l'être humain, homme et femme, au travail, c'est-à-dire à la collaboration à l'œuvre de la création. Nous sommes donc avant la chute, mais le travail est déjà là. Et donc, ça n'est pas d'avoir à gagner son pain qui est une punition. Ce qui est une punition, en revanche, c'est d'avoir à le gagner à la sueur de son front, c'est-à-dire avec une certaine pénibilité. Donc, s'il y a à gagner son pain, cela veut dire qu'il y a la nécessité donc de satisfaire des besoins, des besoins élémentaires pour la vie humaine. Mais, en fait, il y a un besoin plus grand que celui-ci. Le besoin qui habite l'homme, c'est de répondre, en fait, à cette vocation qu'il associe à l'œuvre à la fois de création et de providence de Dieu. Et il y a aussi, pour ainsi dire, avec des guillemets, un besoin qu'a Dieu d'avoir des relais, parce qu'il a choisi. Certes, sa providence est immédiate, mais la réalisation de cette providence, elle ne l'est pas. Elle passe par celui qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Et donc, Dieu a besoin d'avoir des relais pour son œuvre de création et de providence, qui consiste à mener la création à son achèvement. Et donc, ce besoin-là, il a choisi de l'avoir dès le début. Et le travail s'inscrit dans cette perspective d'association à la création. Dieu a choisi d'avoir un intendant ou un régisseur, d'avoir quelqu'un qui, encore une fois, est son lieutenant pour cette action de création et de providence. Alors, c'est ce que je vous ai mis dans le recueil de textes. C'est le numéro 326, donc, de cet ouvrage que vous connaissez peut-être, hein, qui est donc ce compendium de la doctrine sociale de l'Église, qui date de 2006, et qui certes porte le titre de compendium, c'est-à-dire de résumé ou de synthèse, mais qui en fait doit faire à peu près 500 ou 600 pages. Donc c'est vrai qu'en matière de synthèse, on peut mieux faire, mais en fait, il avait aussi pour objectif de donner une organisation et un peu une structuration de ce qui, autrement, est un peu une suite d'interventions comme ça. Et donc c'est plus qu'une synthèse, c'est vraiment une présentation organique de la doctrine sociale de l'Église. Et donc on trouve dans cet ouvrage, au numéro 326, ce beau texte, hein, à la lumière de la révélation, l'activité économique, qui a pour fondement donc, le travail, doit être considérée et accomplie en tant que réponse reconnaissante à la vocation que Dieu réserve à chaque homme. Celui-ci est placé dans le jardin pour le cultiver, le garder, pas simplement pour le contempler, pas simplement un visiteur, il n'est pas simplement au jardin des plantes, non, il est placé dans le jardin pour le cultiver et le garder, termes fondamentaux évidemment de la spiritualité hébraïque, et en en usant selon des limites bien précises dans l'engagement à le perfectionner, c'est-à-dire, non pas simplement à lui apporter le petit plus, mais vraiment à le mener à sa perfection. En se faisant témoin de la grandeur et de la bonté du Créateur, l'homme marche vers la plénitude de liberté à laquelle Dieu l'appelle. Une bonne administration des dons reçus et aussi des dons matériels est une œuvre de justice envers soi-même et envers les autres hommes. Ce que l'on reçoit doit être bien utilisé, conservé, fructifié, comme l'enseigne la parabole des talents. On peut donc parler, en fait, d'une vocation de l'homme à être économique, c'est-à-dire à être un être économique, c'est-à-dire à un être qui, par souci de justice, la justice consistant à donner à chacun ce qui lui revient et à faire en sorte que chaque chose puisse, je dirais, donner tout ce qu'elle doit donner, tout ce qu'elle peut donner, eh bien, l'homme est appelé à être économique dans tout son rapport au monde. C'est une œuvre de justice qui concerne aussi, bien sûr, et peut-être d'abord pour ce qui est de l'économie au sens où nous l'entendons, les biens matériels, et de ce point de vue-là, l'idée qu'il a à être un administrateur et quelqu'un qui répartit bien, c'est évidemment l'étymologie de l'économie, c'est-à-dire, voilà, le pape François parle souvent de cette maison commune, et bien, cette maison a un nomos, c'est-à-dire, peut-être avant une loi, eh bien, c'est une répartition. Parce que dans mes souvenirs de grec, le terme de nomos, enfin, vous m'arrêterez, hein, ceux qui sont beaucoup plus en prise avec ça, il me semble que le terme de nomos vient d'un verbe grec signifiant répartir et distribuer de manière équitable. Et donc, l'économie, c'est la juste répartition de tous les éléments qui composent cette maison commune qu'est le monde. Donc l'homme a une vocation à être dispensateur, administrateur, et il est beau que, alors sur cette idée de maison commune, c'est vrai que c'est le pape François qui le dit aussi dans Evangelii Gaudium, donc cette fois-ci au numéro 206, l'économie, comme le dit le mot lui-même, devrait être l'art de bien administrer la maison commune, à savoir le monde entier. Voilà, voilà cette belle vision de l'économie consistant à être dans le monde comme un bon économe. Et je trouve ça beau que le texte aussi du compendium fasse référence à l'évangile, à la parabole des talents, et on pourrait aussi mettre en référence tous ces textes de l'évangile où il est question justement d'un intendant, le terme de l'évangile c'est économe, qui est bon et fidèle, et qui doit, alors certes il s'agit de biens spirituels, mais il est très beau de voir que le Christ se sert de cette réalité matérielle pour illustrer cette autre réalité, cette réalité spirituelle qui est qu'il s'agit d'être un bon dispensateur des dons reçus de Dieu, et la terre est le premier des dons que nous recevons. Alors sans compter bien sûr l'usage proprement théologique qui sera fait de ce terme d'économie quand on parle de l'économie du salut, mais là aussi c'est pas simplement jouer sur les mots, c'est que c'est toute l'analogie du terme qui se déploie, et c'est pas un hasard si la base de cette analogie c'est une réalité peut-être très matérielle, mais justement la Bible conjoint le matériel et le spirituel là où nous trop souvent nous instaurons cette partition là où nous disons bah, d'un côté il y a ce qui relève du spirituel, de l'autre ce qui relève du matériel, bien, je crois que la Bible au contraire développe une vision spirituelle de l'économie, au sens elle permet de voir que à travers cette dimension matérielle il y a en réalité un enjeu, tout ce qu'il y a spirituel. Donc en rappelant que l'économie est au service de l'homme, c'est la suite du texte que vous trouvez en haut de la page 2, hein. L'activité économique et le progrès matériel doivent être mis au service de l'homme et de la société. Si l'on s'y consacre avec la foi, l'espérance et la charité des disciples du Christ, donc là aussi c'est très audacieux parce qu'il s'agit de se consacrer à l'économie avec les vertus théologales. Et l'économie et le progrès, eux aussi, peuvent être transformés en lieu de salut et de sanctification. Là aussi, il n'y a pas de coupure entre le spirituel et le temporel. De ce point de vue-là, cette coupure est ruineuse quand on voit en fait, la place que prend dans le quotidien, dans la vie de quantité de personnes, eh bien, leur activité professionnelle. Et d'imaginer que tout ce pan-là de leur activité soit, je dirais, imperméable à toutes les problématiques spirituelles, c'est complètement désastreux. Dans ces domaines aussi, il est possible d'exprimer un amour et une solidarité plus qu'humain et de contribuer à la croissance d'une humanité nouvelle qui préfigure le monde des temps derniers. Là, c'est la dimension eschatologique, carrément, de l'économie. Jésus synthétise toute la révélation, alors ça c'est une formulation très audacieuse, je trouve, du compendium. Jésus synthétise toute la révélation en demandant aux croyants de s'enrichir en vue de Dieu. Alors, je crois que le sens de l'expression dans la parabole n'est pas celui qui, là, lui est donné. Ici, s'enrichir en vue de Dieu, ça veut dire vraiment s'enrichir, mais de le faire en vue d'une finalité qui est celle de Dieu, à savoir le service de l'homme et de la société. L'économie aussi est utile pour ce faire quand elle ne trahit pas sa fonction. Et quelle est sa fonction? C'est d'être un instrument au service de la croissance globale de l'homme et de la société, de la qualité humaine de la vie. C'est donc une belle caractérisation, je trouve, de la fonction de l'économie, être un instrument au service de la croissance globale de l'homme. Alors, s'il en est ainsi, on comprend mieux, du coup, dans quelle lumière est envisagée l'activité financière, cette fois-ci, définie donc comme une activité interne à l'économie et non pas extérieure, et ayant pour objet, comme son nom l'indique, le financement, c'est-à-dire de rendre viables les projets économiques. C'est vrai que voilà, la finance, c'est trois métiers. C'est émettre des possibilités d'investissement, c'est aussi des fonctions d'intermédiation, voilà, en particulier les banques, et puis aussi c'est investir. Et c'est vrai que ces trois fonctions de la finance, ce sont des fonctions qui sont essentielles en vue du bon fonctionnement de l'économie, et je retiens surtout de ces trois fonctions la fonction d'investissement, qui, elle, est vraiment, je dirais, le nerf de la guerre, puisque c'est ce qui permet justement au travail de donner toute sa mesure. Sous cet aspect, il y a un très beau texte, je trouve, du pape Jean-Paul II, dans cette encyclique Centesimus Annus, donc de 1991, qui évidemment prend un relief tout particulier, justement pour Jean-Paul II, concernant toute cette question du socialisme et du capitalisme, puisque nous sommes dans cette période historique décisive des années 89-91, et c'est justement à ce moment qu'on trouve le 100e anniversaire de la première encyclique de la forme contemporaine de la doctrine sociale qui est Rerum Novarum, et justement à ce moment, le pape François, donc le pape Jean-Paul II, écrit ceci, qui, quand on sait d'où il vient, prend un relief, je trouve, particulier. Même le choix d'investir, donc d'investir au sens financier, en un lieu plutôt que dans un autre, dans un secteur de production plutôt qu'en un autre, est toujours, en fait, un choix moral et culturel. Une fois réunies certaines conditions nécessaires dans les domaines de l'économie et de la stabilité politique, la décision d'investir, c'est-à-dire d'offrir à un peuple l'occasion de mettre en valeur son travail. Ça, c'est magnifique. Parce que je trouve que c'est aux antipodes de ce qu'on a souvent à l'esprit concernant les investisseurs. En fait, qu'est-ce qu'investir ? Ben, c'est offrir à un peuple, alors offrir, parfois c'est pas gratuit, puisque c'est sûr qu'il y a une exigence de rentabilité, mais en tout cas c'est permettre à un peuple l'occasion de mettre en valeur son travail. En fait, s'il n'y a pas de finance, il n'y a pas d'économie, et donc le travail ne peut pas donner toute sa valeur. Et donc c'est derrière, il y a même l'exigence de faire porter au travail tout son fruit, d'où la nécessité effectivement du financement du travail. Donc la décision d'investir est conditionnée également par une attitude de sympathie. Et là, étonnant quand on a l'image de l'investisseur, eh bien, une attitude de sympathie et par la confiance en la providence, effectivement, parce que l'investisseur est un relais de la providence, qui révèle la qualité humaine de celui qui prend la décision. Alors les autres textes aussi que je vous ai mis à la fin, toujours dans ce premier moment, je trouve, contiennent des formulations très importantes sur le sens de l'activité financière par rapport à l'économie. Je prends le texte suivant, qui est un message du pape Benoît XVI de 2009. 2009, c'est un an et demi, un an après la grande commotion financière de 2007-2008. Et donc, le pape Benoît XVI en profite pour faire un petit peu un retour sur ce qui s'est passé. Hein. Et ce faisant, il donne des caractéristiques qui sont celles de la finance d'après donc, la doctrine sociale. La fonction objectivement la plus importante de la finance, celle qui consiste donc à s'en mettre plein les fouilles. Non, mais non, justement, celle qui consiste à soutenir à long terme la possibilité d'investissement et donc de développement. Voilà. S'il n'y a pas de finance, il n'y a pas d'investissement. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de développement. Et donc, voilà la fonction de la finance, de soutenir à long terme. Eh bien, se révèle aujourd'hui tout à fait fragile, c'est clair. Après 2007, c'était le cas. Elle subit les contre-coups négatifs d'un système d'échange financier au niveau national et mondial basé sur une logique du très court terme qui a pour but l'accroissement de la valeur des activités financières et se concentre sur la gestion technique des diverses formes de risques. Voilà malheureusement ce que pour beaucoup est devenu la finance. Un ratio entre un rendement et un risque. Voilà la réduction de l'investissement. Alors qu'en réalité, l'investissement, c'est beaucoup plus qu'un ratio entre un rendement et un risque. La récente crise démontre aussi comment l'activité financière est parfois guidée par des logiques purement autoréférencées et dépourvues de considération à long terme pour le bien commun. C'est clair. Le nivellement des objectifs des opérateurs financiers mondiaux à l'échelle du très court terme diminue, ça c'est une très belle expression concernant la finance, diminue la capacité de la finance de jouer son rôle de pont entre le présent et l'avenir. Peut-être que le nom de Pierre-Yves Gomez vous dit quelque chose. Pierre-Yves Gomez est un grand serviteur de l'Église, qui est très engagé à la communauté de l'Emmanuel, qui est professeur d'économie à l'EM Lyon, et qui a, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce parcours Zaché, qui est un parcours de formation, et surtout de mise en œuvre de la doctrine sociale de l'Église, c'est lui qui l'a un peu conçu. Et c'est très beau d'entendre Pierre-Yves Gomez parler de l'investissement, justement en disant mais l'investissement c'est magnifique, parce que l'investissement c'est le rapport au temps, c'est le développement durable, c'est-à-dire que tout investissement engage un rapport au temps, et donc c'est quasiment métaphysique, parce que derrière, il y a un rapport, encore une fois, à l'avenir qui est au temps qui se joue. Donc, de jouer un pont entre le présent et l'avenir, donc cette capacité qu'a la finance, pour soutenir la création de nouvelles possibilités de production et de travail sur une longue période. Voilà ce que permet la finance. Une finance limitée au court terme, et même au très court terme, devient dangereuse pour tous, même pour ceux qui réussissent à en tirer profit dans les périodes d'euphorie financière. Donc ensuite, je vous ai mis un extrait d'un document de 2018 et de la Congrégation pour la doctrine de la foi et du dicaster pour le service du développement humain intégral qui a pris le relais du Conseil pontifical Justice et Paix. Donc ce document a un titre très parlant pour, je pense, les investisseurs, hein, « Economici et pecuniarii questiones », donc les questions économiques et financières, et qui utilise pour parler des marchés financiers une analogie qui est celle de la circulation du sang, et qui donne une image, je trouve, très belle et très ancienne, finalement, puisque effectivement cette image qu'a donné d'ailleurs le terme de liquidité, mais l'idée que voilà, le but de la finance et de l'économie, enfin de la finance surtout et de l'argent, est de circuler, et ainsi, tel un liquide, d'irriguer en fait, l'économie, et bien là, c'est un peu la même chose qui est reprise. Hein. Grâce au progrès de la mondialisation et de la numérisation, je suis en bas de la page 2, le marché peut être comparé à un grand organisme dans les veines duquel coule comme une lymphe vitale une immense quantité de capitaux. C'est vrai que souvent, on n'a pas cette vision du marché mondial des capitaux. En empruntant cette analogie, on peut également parler de la santé de cet organisme, lorsque ses moyens et ses structures assurent au système un bon fonctionnement où croissance et diffusion de la richesse vont de pair. La santé de ce système dépend bien sûr de celle des actions individuelles mises en œuvre, parce qu'il n'y a pas de santé comme ça, uniquement structurelle, sans être portée par des actions individuelles. Quand l'organisme qui est le marché jouit d'une bonne santé, il est plus facile que soit respectée et promue la dignité des hommes ainsi que le bien commun. Et ça, c'est un peu à contre-feu de ce qu'on peut entendre habituellement, puisque justement, souvent, malheureusement, les nouvelles qu'on reçoit, c'est les marchés se portent bien, mais celui, le bien commun, il est assez loin. Mais en fait, il y a une collinéarité qui est possible. Corrélativement, on peut parler d'une intoxication de ce corps chaque fois que sont introduits et propagés des outils financiers et économiques peu fiables qui compromettent sérieusement la croissance et la propagation de la richesse, créent des difficultés et des risques systémiques. Et puis, je vous ai mis après des textes du Compendium, toujours étonnamment positifs en fait, sur les marchés financiers, bien sûr qui en soulignent les sorties de route et le fait que parfois tout ça se détraque. Je prends le tout début du numéro 368. Les marchés financiers ne sont pas une nouveauté de notre époque. Depuis longtemps déjà, sous diverses formes, ils se sont chargés de répondre à l'exigence de financer des activités productives. Parce qu'effectivement, quand on veut se financer, il y a un moment où, et quand on est surtout à des grandes échelles, eh bien, la solution optimale, eh bien, c'est de le faire via des marchés. L'expérience historique atteste qu'en l'absence de système financier adéquat, aucune croissance économique n'aurait eu lieu. Voilà. Alors, ce que je trouve beau, effectivement, c'est cette vision. Alors derrière, il y a bien sûr, mais on n'a pas le temps de s'y pencher. Derrière, il y a toute la vision qui est celle d'être sociale entre le capital et le travail, cette relation entre capital et travail qui est évidemment au cœur de la problématique à la fin du XIXe siècle. Et donc, dès la première encyclique Rerum Novarum, il y a le fait de s'emparer de cette problématique et de rappeler que bien sûr, c'est le capital qui est pour le travail et que certes, si le capital a une fonction instrumentale par rapport au travail, ben, ce n'est pas pour autant qu'il faille, je dirais, Non, déjà, c'est la première raison pour ne pas le diaboliser. Et puis, deuxièmement, ce n'est pas parce que c'est seulement un instrument qu'il ne faut pas y accorder une grande attention, parce que on voit bien que du caractère plus ou moins affûté d'un instrument dépend la réalisation du projet lui-même. Et donc, toute cette relation entre travail et capital est bien sûr au cœur de la relation entre finance et économie. Mais ce que je trouve beau, c'est d'une manière générale cette fonction, on pourrait dire ministérielle, en fait, de la finance, au sens où la finance est là pour rendre un service à l'économie et l'économie elle-même est appelée à rendre ce service à l'humanité. Avant cela, peut-être une transition, parce que dans tout topo, il y a des transitions. Pourquoi parler de vocation ici, s'agissant d'activités dont, à première vue, on ne voit pas bien quel est le rapport qu'elles peuvent avoir avec l'homme et avec le bien. C'est vrai que si on fait abstraction de ces textes et qu'on regarde ce qui se passe dans le monde de l'entreprise et dans le monde de la finance, on se dit, mais quel est le rapport avec une vocation? Activité donc qui semble moralement neutre, et même dans les faits qui sont au lieu de quantité de vices et de péchés, en tout cas c'est la porte d'entrée de l'Église et de dérèglement. Et donc comment est-il possible de parler de vocation à propos de ces activités-là? Eh bien la seule manière de le faire, c'est de montrer, un des points d'insistance de la doctrine sociale, le lien qu'il y a entre économie et éthique, et donc entre les biens et le bien. Voilà. Donc c'est notre deuxième moment. Économie et éthique, donc le bien et les biens. Alors l'objectif, donc, c'est de réconcilier les deux. Et de ce point de vue-là, un texte de Caritas in Veritate. C'est à la page 4. Donc, Caritas in Veritate, c'est l'encyclique de 2009 du pape Benoît XVI, donc là aussi peu de temps après la crise, qui comprend cette formule, au numéro 65, je suis au milieu. Il faut surtout que l'objectif de faire le bien ne soit pas opposé à celui de la capacité effective à produire des biens. Faire le bien, c'est la morale, et produire des biens, ça c'est donc l'économie. Alors, j'essaie de me retrouver dans mes notes. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Alors, ici, donc, c'est sur une ligne de crête qu'il faut se tenir, car les textes du magistère cherchent à tenir ensemble deux affirmations qu'il n'est pas simple de concilier, mais qu'il faut bien avoir à l'esprit. Premièrement, il est clair que, du point de vue de la doctrine sociale, l'économie n'est pas à même, par elle seule, de garantir le bonheur de l'homme, c'est-à-dire son bien complet, son achèvement. Elle n'est donc pas, à ce titre, le critère ultime du bien, et ça, c'est ce que le magistère dénonce souvent par le terme d'économisme, consistant à tout voir au prisme de l'économie, à faire vraiment de cette dimension-là, la dimension peut-être pas unique, mais en tout cas première de l'homme, et donc de tout relire à l'aune de ces critères purement économiques. Donc c'est la confusion, et c'est vrai que par beaucoup d'égards, nous sommes en plein dedans, entre l'avoir et l'être, entre ce qui relève du profit et ce qui est profitable, et entre le bénéfice et le bienfait, entre le succès et le bonheur, entre l'abondance et le bonheur. Et de ce point de vue-là, il y a cette très belle parabole en Saint-Luc, au chapitre 12, verset 16-21, cette parabole de celui qui a fait de belles récoltes et qui construit des greniers plus grands et qui stocke en fait son avoir et qui se dit bah, c'est bon maintenant tu peux cesser de travailler, tu peux jouir de tout ce que tu as accumulé et qui s'entend dire mais malheureux tout cela qui l'aura et donc c'est celui qui confond effectivement l'abondance des possessions et puis le bonheur. Pourquoi effectivement l'économie ne peut pas faire le bonheur de l'homme, parce que elle ne concerne que une seule dimension de son être, et c'est ce qui est bien exprimé, je trouve, page 3 au milieu, hein, le texte numéro 331 du Compendium. Voilà, c'est la dernière phrase hein, de ce numéro 331. Ce n'est pas à l'économie, soit dans le champ scientifique, soit au niveau pratique, qui est confiée la finalité de la réalisation de l'homme et du bon vivre ensemble humain. Parce que la tâche de l'économie est partielle, quelle est-elle ? La production, la distribution et la consommation de biens matériels et de services. Donc, sa mission est partielle. Elle se limite à la production, la distribution et la consommation de biens matériels et de services. Ça, c'est le premier aspect, c'est le regard que porte le magistère sur l'économie qui évite, encore une fois, d'en faire un absolu et qui voit en elle, encore une fois, seulement ce qu'elle est. Le deuxième élément qu'il faut tenir, c'est que ce n'est pas parce que l'économie a une finalité qui est restreinte que, pour autant, elle est étrangère à toute considération morale, et on pourrait même dire à l'inverse. C'est parce que sa finalité est relative que, par conséquent, la morale a son mot à dire dans le enfin, à son sujet. Et donc là, c'est cette belle expression qui se trouve, la phrase d'avant, hein, celle que je viens de vous lire, « Donner le poids juste et nécessaire aux raisons propres à l'économie ne signifie pas rejeter comme irrationnelle toute considération d'ordre méta-économique. Précisément parce que la fin de l'économie ne réside pas dans l'économie elle-même, mais dans sa destination qui est humaine et sociale. » Discours qui est aujourd'hui totalement inaudible. C'est-à-dire que l'idée qu'il existe une sorte de légitimité pour un discours de nature morale à s'appliquer à l'économie, c'est vrai que c'est une idée qui est étrangère à beaucoup de pans de la culture contemporaine. Et donc, par rapport à ça, c'est sûr que le magistère de l'Église assume le décalage, parce que effectivement, c'est une conséquence nécessaire du fait que l'économie a une finalité qui est partielle. C'est que, par conséquent, puisque la morale concerne le tout de l'homme, eh bien, la morale est à même et légitime pour apprécier des réalités de type économique. Et ce qui veut dire, et je reviens cette fois-ci au début du paragraphe, que le rapport entre morale et économie est nécessaire et intrinsèque. Activité économique et comportement moral se compénètrent intimement. La nécessaire distinction entre morale et économie ne comporte pas une séparation entre les deux domaines, mais au contraire, une réciprocité importante. Alors cette interaction entre les deux, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vaut dans les deux sens, au sens où d'abord, pour le magistère de l'Église, il est économique d'être moral, c'est-à-dire que en principe, on n'a pas à perdre du point de vue économique à être moral, c'est-à-dire qu'il y a des retombées positives dans l'économie à faire preuve de comportements moraux, et ça, c'est vrai que heureusement que l'expérience le vérifie souvent, ou parfois, alors c'est pas pour des gains économiques qu'on est moral, mais ça a quand même pour effet parfois de rapporter, mais d'autre part, il est moral d'être économique. Ça, c'est quelque chose qu'on a moins à l'esprit, c'est ce que le texte exprime juste, enfin, c'est la deuxième phrase du numéro 331. De même que dans le domaine moral, il faut tenir compte des raisons et des exigences de l'économie. De même, en œuvrant dans le domaine économique, il faut s'ouvrir aux questions morales. C'est-à-dire que dans le domaine moral, il faut tenir compte des raisons et des exigences de l'économie. C'est que souvent, on pense que le fait de ne pas tenir compte des exigences économiques est en fait indifférent moralement. En fait, c'est faux. C'est faux. Il y a quelque chose de profondément immoral à faire n'importe quoi de ses ressources. C'est-à-dire que. Et d'ailleurs, ça, je me souviens d'une fois, on m'avait posé cette question de savoir, mais est-ce qu'il est, est-ce que il faut, je dirais, avoir un suivi de la manière dont est utilisé son don, parce que quand on fait un don, par exemple, on pourrait se dire, bah voilà, je fais un don, donc maintenant la personne à qui je fais le don, elle en fait ce qu'elle veut, et je ne suis pas attentif à l'utilisation. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de très, de très bel. Il y a beaucoup d'associations, d'entités qui vivent de dons, justement, communiquent sur la manière dont elles mettent en œuvre économiquement les dons reçus, parce que c'est pas parce que c'est donné que pour autant on peut, je dirais, en faire n'importe quoi. Il y a une moralité à la bonne administration, même de ce qui est donné. Alors la conviction sous-jacente, hein, bien sûr, à tous ces textes sur les rapports entre morale et économie, c'est que la thèse de la neutralité économique de l'économie est évidemment une thèse qui n'est pas éthiquement neutre, puisqu'elle est très située historiquement, et qu'elle est un instrument précisément au service d'une certaine vision de l'économie. Et donc considérer que l'économie et la finance, c'est soit le domaine du diable, soit le domaine de ce qui est indifférent, eh bien c'est évidemment avaliser la thèse de ceux qui, justement, veulent en faire le domaine d'abord de la moralité et ensuite à terme de l'immoralité. Et donc par rapport à ça, il est sûr que le magistère cherche à ne pas entrer dans ce piège en disant mais non, cette sphère n'est pas éthiquement neutre, parce que la désigner comme éthiquement neutre, eh bien ça n'est pas éthiquement neutre. Voilà. L'objectif donc c'est la réconciliation entre les biens et le bien, et d'ailleurs je trouve que c'est très beau, parce que ça permet de mesurer que ça n'est pas pour rien que on les appelle justement des biens, que si la mission de l'économie, eh bien c'est à la fois fournir des biens et des services, eh bien bah, ce sont des biens et ce sont des services, c'est-à-dire que ça a une composante qui est déjà en soi morale. Je vous ai mis aussi après des textes donc de ce document récent là de 2018 justement utilise une expression qui je trouve intéressante, qui est celle de bien-être humain et intégral, au sens où d'habitude on oppose le bien-être matériel au bien moral, et là justement pour lever cette opposition on parle de bien-être intégral pour dire que effectivement le bien-être a déjà une dimension morale, même si c'est pas suffisant, et ensuite pour que ce soit vraiment un bien-être moral, il ne faut pas simplement que ce soit un bien-être économique, mais aussi qu'il soit un bien-être humain. Alors, j'accélère un peu parce que je vois que j'ai déjà trop parlé. Une fois qu'on a dit ça, il faut se demander mais quelle économie et quelle finance permet de poursuivre cet objectif et de réaliser cette destination humaine de l'économie de la finance. De ce point de vue-là, et c'est notre troisième moment, les textes du magistère sont assez clairs, au sens où c'est un peu la stratégie du mini, parce que le but, encore une fois, est de renvoyer dos à dos le communisme, le socialisme et le capitalisme, en tout cas dans sa forme la plus sauvage. Et de ce point de vue-là, le texte le plus important est celui que vous trouvez à la page 5. C'est un texte donc de Jean-Paul II, extrait de Centesimus Annus. Peut-être que certains l'ont déjà vu passer, parce que c'est le texte qu'on cite tout le temps sur la question de savoir, question je reconnais un peu journalistique, l'Église est-elle capitaliste. À cette question-là, le pape Jean-Paul II répondait ceci. Hein. Je lis après le texte en italique au numéro 335. Peut-on dire que, après l'échec du communisme, le capitalisme soit le système social qui l'emporte et que c'est vers lui que s'orientent les efforts des pays qui cherchent à reconstruire leur économie et leur société? On est en 1991. Est-ce ce modèle qu'il faut proposer aux pays du tiers-monde, à l'époque on parle encore du tiers-monde, qui cherche la voie du vrai progrès de leur économie et de leur société? La réponse est évidemment complexe. Pourquoi est-elle complexe? Parce que si sous le nom de capitalisme, on désigne un système économique qui reconnaît, premièrement, le rôle fondamental et positif de l'entreprise, ensuite le rôle fondamental et positif du marché, celui de la propriété privée et de la responsabilité qu'elle implique dans les moyens de production, de la libre créativité humaine dans le secteur économique, eh bien la réponse est sûrement positive. Même s'il serait peut-être plus approprié de parler d'économie d'entreprise ou d'économie de marché ou simplement d'économie libre, et non pas dirigée. Mais si par capitalisme on entend un système où la liberté dans le domaine économique n'est pas encadrée par un contexte juridique ferme, qui la met au service de la liberté humaine intégrale et la considère comme une dimension particulière de cette dernière, dont l'axe est d'ordre éthique et même religieux, alors la réponse est nettement négative. En fait, tout dépend le sens qu'on donne au mot capitalisme. C'est pour ça qu'à chaque fois, on précise en quel sens on l'entend et en quel sens on ne l'entend pas. Voilà. Je vous ai mis après de très beaux textes, je trouve, hein, de Caritas in Veritate, de Benoît XVI. Qui eût pu croire que Benoît XVI signe des textes aussi pertinents sur la notion de marché? Lui, je pense qu'il ne doit pas avoir une grande formation sur ces sujets économiques et financiers, mais qui a donc signé ces très beaux textes, je trouve, sur le marché comme institution. D'ailleurs, c'est beau de voir à quel point. C'est étonnant de voir à quel point le marché suscite, même le terme suscite une telle répulsion quand on voit, par exemple, ce que peuvent être les marchés, les marchés médiévaux. C'est-à-dire quand on va visiter des villes, il y a des restes de marchés du Moyen Âge. Enfin, on se dit, mais l'institution du marché, c'est quand même une très belle institution. Évidemment, après, tout dépend ce qu'elle devient. Mais en tout cas, le marché en tant que tel. N'a pas à susciter, je trouve, de répulsion particulière. Voyez, si je vais à la page 6, voyez au numéro 36, au 12e paragraphe, l'Église a toujours estimé que l'agir économique ne doit pas être considéré comme antisocial. Le marché n'est pas de soi et ne doit donc pas devenir le lieu de la domination du fort sur le faible. La société ne doit pas se protéger du marché, comme si le développement de ce dernier comportait ipso facto l'extinction des relations authentiquement humaines. Et c'est vrai qu'en soi, un marché, c'est aussi le lieu, enfin je veux dire, il y a marché, mais en soi, c'est le lieu de relations authentiquement humaines. Il est certainement vrai que le marché peut être orienté de façon négative, non pas parce que c'est là sa nature, mais parce qu'une certaine idéologie peut l'orienter en ce sens. Il ne faut pas oublier que le marché n'existe pas à l'état pur. Il tire sa forme des configurations culturelles qui le caractérisent et l'orientent. Et en fait, ce sont surtout ces configurations culturelles qui posent problème du point de vue de la doctrine sociale et non pas les institutions dont se servent ces configurations culturelles pour l'emporter. En effet, l'économie et la finance en tant qu'instrument peuvent être mal utilisées quand celui qui les gère n'a comme point de référence que des intérêts égoïstes. Ainsi peut-on arriver à transformer des instruments bons en eux-mêmes en instruments nuisibles. Mais c'est la raison obscurcie de l'homme qui produit ses conséquences, non l'instrument lui-même. C'est pourquoi ce n'est pas l'instrument qui doit être mis en cause, mais l'homme, sa conscience morale et sa responsabilité personnelle et sociale. En conclusion, donc vous voyez ces trois moments. Hein. Le premier moment, c'était de rappeler que le regard que porte la doctrine de l'Église sur l'économie et la finance, c'est un regard qui n'y voit pas simplement en fait la réponse à une nécessité ou à un besoin, et parfois une nécessité, une sorte de mal nécessaire. Non, en fait, c'est la réponse à une vocation qui est inscrite dans le plan de Dieu sur la création, même si comme tout plan de Dieu sur la création, eh bien, cette réalité est marquée bien sûr par le péché. Ensuite, le deuxième point, c'était que cette vocation est au service en fait d'une réconciliation entre les biens et le bien. Et donc ça, c'est l'insistance sur le lien intrinsèque entre économie et éthique, voilà, et morale. Alors après, quelle éthique, c'est aussi tout le sujet. Et puis troisièmement, cette dimension morale du capitalisme, ce que je trouve intéressant dans ces textes de l'Église sur le marché, sur le capitalisme, c'est que, oui, certes, il y a le critère de l'efficacité économique, mais c'est d'abord pour des raisons morales, en fait, que l'Église, clairement, tout en rejetant, en mettant dos à dos capitalisme sauvage et communisme, clairement, prend quand même l'option de l'économie libre, parce que derrière, il y va de la dignité de l'homme et, et justement de sa capacité à répondre de la meilleure manière possible à cette vocation. Et donc voilà. Et donc tout ça, bien sûr, est au service ultimement eh bien, du fait de faire en sorte que cette richesse puisse être communiquée au plus grand nombre, et notamment à ceux qui en manquent sous la forme de la pauvreté. Voilà, je suis désolé, j'étais un peu rapide. C'est le temps pour des questions, peut-être maintenant. Je suis désolé, j'ai été un petit peu à la mitraillette, mais...
Peut-être que les questions prendront l'un ou l'autre point.
Oui.
Est-ce que vous pensez que les prêts à intérêt et de son interdiction?
Comment?
Est-ce que vous pensez que les prêts à intérêt et de sa non-interdiction?
Alors, joker, parce que le sujet est inextricable. Il est inextricable. Parce que c'est vrai que la condamnation du prêt intérêt, c'est une condamnation qui est, en fait, qui est, je crois, dans les semaines, il y a un texte qu'on cite toujours là, mais en fait, qui est, on ne sait pas trop quel est le statut de la chose. Voilà, ce qui est sûr, c'est que l'Église n'est pas officiellement revenue là-dessus, tout en étant dans les faits complètement revenue dessus. Donc c'est un gros problème, en fait, derrière, de formulation en fait de la doctrine, puisque d'ailleurs c'était très intéressant parce que c'est un des exemples que donne un texte qu'a publié récemment la Commission théologique internationale sur ce qu'on appelle le sensus fidei, c'est-à-dire le sens de la foi du peuple de Dieu. C'est un exemple qu'il donne pour dire que c'est un point sur lequel peut-être que le sens de la foi est allé, enfin, va plus vite que les formulations doctrinales, parce que du point de vue des formulations doctrinales, c'est vrai que jusque là on n'a que des condamnations, alors même qu'il y a de bonnes raisons, effectivement, de soutenir que l'intérêt a un sens, une moralité, puisqu'il s'agit de rémunérer la prestation d'un service, quand même. Si la finance est un service, alors il y a un sens à, évidemment, rémunérer ce service. Je vois qu'encore récemment, il y a un article qui est paru dans la revue Thomiste sur cette question de la licéité ou non de l'usure, et donc souvent on s'en sort en disant qu'il y a une validation du taux d'intérêt, mais aussi une condamnation de l'usure. En fait, là on est un petit peu gêné aux entournures, c'est que d'un côté il n'y a pas eu de mise à jour à ma connaissance de la doctrine, mais de l'autre il y a toute l'expérience historique en fait des chrétiens et de l'Europe en particulier, et notamment l'expérience des banques. C'est-à-dire que ce qui est fou, c'est que cette institution-là a été quand même non seulement développée, enfin, non seulement elle est née, mais elle a été promue, et jusqu'à une époque encore très récente, le nombre d'initiatives de ce type qui ont été promues par des chrétiens ou des catholiques. Et donc, on se demande, mais comment concilier tout ça? Donc, c'est pour ça que je dis joker, c'est parce que ça fait partie, je pense, des points où il y aura forcément. Il y a la nécessité, je trouve, d'une mise à jour de la doctrine. Alors, en quel sens, je ne sais pas, mais en tout cas, il va falloir...
Je dirais aussi que par rapport au texte critique, hein, en Saint-Testament, on condamne l'usure, mais c'était des sociétés où, par exemple, il n'y avait pas d'inflation. Je pense que l'argent même a changé de définition, en réalité. Alors, on est bien obligé, pour dire ça, ça ne dérive pas le débat, mais enfin, c'est vrai que là, il faut bien adapter. D'ailleurs, le sorcier lui-même, hein, l'a dit, quand il fait des placements, tout à fait dans
bien sûr
qu'on ne peut pas éviter qu'il y ait un jugement bancaire.
Bien sûr, bien sûr. Alors on sait que la finance islamique cherche à contourner ça, par des mécanismes qui font qu'à la fin on se dit bah attendez, d'accord, s'il n'y a pas de prêt intérêt, mais quand même à la fin ça revient à la même chose. Vous voyez un peu les mécanismes, non? Je ne sais pas si. Donc, consistant à. En fait. Non, mais derrière, il y a un côté vertueux, c'est-à-dire que. Au lieu d'emprunter en fait à la banque, et ben la banque achète et revend plus tard mais plus cher. Donc ça veut dire que bon à la fin ça revient au même, En fait non, ça a quand même au moins pour intérêt que la banque s'engage plus dans le projet économique. Mais c'est quand même ça revient à un intérêt détourné quoi, parce qu'on peut difficilement faire sans. Et toute la vraie question sera celle de savoir mais quel est le juste intérêt. Voilà. De même que la question du juste prix, c'est quelle est celle du juste intérêt. Parce que je trouve en fait la condamnation par principe du prêt à intérêt est en fait, en un sens, esquive la difficulté qu'il y a à dire mais quelle est la juste rémunération en fait, non pas de l'argent, mais du prêt de l'argent.
Oui, sur cette question du prêt à intérêt, il y a déjà des réponses dans la situation de Tardy.
Oui, tout à fait.
Donc peut-être que, enfin, je ne sais pas si c'est magistériel, ou peut-être qu'ils ont
bah non, en fait.
autorité pour cette question.
Non mais c'est vrai. Mais à ma connaissance, ça n'a pas donné lieu à des déclarations officielles. En soi,
notamment dans les textes magistériels récents, d'autres situations.
Oui, alors c'est sûr que dans la DSI, bon, clairement, hein, le style du pape François, ce ne sera pas tellement un style, je dirais, consistant à relever ce qu'il peut y avoir de positif, mais ce sera plutôt un style prophétique, quoi, un peu dénonciateur. Mais bon, je ne vois pas en quoi ça renouvelle. Oui, ça renouvelle peut-être juste la question de la croissance, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, l'idée que la croissance ne doit pas être un objectif à poursuivre à tout prix, ça, c'est l'idée qui est dans le magistère depuis assez longtemps, au moins depuis Paul VI, avec toutes les réflexions sur le développement. L'idée, est-ce que la mondialisation vient changer la donne ? En fait, tout dépend de ce qu'on entend par mondialisation. Alors, il y a des textes du magistère sur la mondialisation qui, globalement, disent la mondialisation, c'est ce qu'on en fera, hein. c'est pas un processus... c'est ni bon ni mal, ni mauvais en soi, c'est tout dépend, encore une fois, d'ailleurs, tout dépend de quoi c'est la mondialisation, tout dépend ce qu'on mondialise. Ensuite, oui, je ne sais pas si c'est de nature à renouveler considérablement la l'attitude, en fait. Tu penses, par exemple, à quel aspect, mettons, de l'écologie qui viennent... Oui, mais ça je dirais, encore une fois, les éléments sont déjà en place, au sens où... je dirais, avant la prise de conscience écologique, l'Église soutenait que ça n'a pas de sens de viser la croissance pour la croissance. C'est-à-dire que c'est, tout dépend d'ailleurs de ce qu'on croit. Et bien sûr, c'est la question quantitative-qualitative. Mais ça, je dirais, c'est pas si nouveau que ça, je trouve, du point de vue du magistère. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? En fait, l'économie du salut, c'est le terme par lequel on va désigner la manière qu'a le salut d'être communiqué et organisé, pour ainsi dire, et d'être dispensé dans le temps. En fait, quelle est la logique, en fait, de sa communication ? Et donc, souvent, on lui donne comme équivalent l'histoire du salut, c'est-à-dire cette manière qu'a eu Dieu de s'y prendre pour donner ce bien, cette grande richesse qu'il est, enfin, de sa grâce, et lui qui est avec quelle intelligence il l'a fait, comment est-ce qu'il a distribué cela, et donc c'est le sens, c'est un peu ça, hein, c'est la, en distinguant différentes économies.
Beaucoup de pères, pas tout ça, mais beaucoup de ça, la théologie de l'économie, la théologie, ça serait la vie de Dieu en lui-même, notamment la vie trinitaire. Dieu est ce qu'il est, ça ne changera pas. L'économie, on rentre effectivement dans c'est l'histoire du salut, alors d'abord l'incarnation, tout ce qui la prépare, tout ce qui la suit. Et là, on est dans le domaine où le contingent, on passe à la banque, Dieu fait des choses, et puis ça change un peu. Mais c'est vrai, l'économie, l'histoire du salut, je pense que c'est un bon équivalent aujourd'hui.
Mais l'idée d'une histoire d'économie, c'est l'idée qu'il y a une logique.
Il y a des étapes.
Il y a des étapes et il y a une...
C'est pas n'importe quoi.
Et qu'il y a une logique de la dispensation. Parce qu'on le voit bien pour nous, si on nous donne tout d'un bloc, souvent on ne le reçoit pas. C'est-à-dire qu'à la fin, l'idée, c'est quand même qu'on le reçoive, ce salut. Et donc, comment vais-je faire pour qu'à la fin, il ne soit pas simplement donné, mais reçu ? Et ça, il faut une économie. Oui ? Alors, de fait, j'ai pas du tout parlé de l'État ici, parce que la passion du capitalisme était très rapide. Donc, parmi les éléments, effectivement, qui pour l'Église font que l'économie libre ou capitaliste, si on veut, peut être moralement admissible. Il y a évidemment le rôle de l'État qui est beaucoup plus important qu'une certaine économie néolibérale, en tout cas, le conçoit. Donc l'État peut être à la fois encadrant et investisseur. C'est pas un problème. Après, il y a aussi un grand principe de la doctrine sociale qui joue dès qu'il est question de l'État, c'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que l'État doit être investisseur, mais il doit être investisseur si c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être investisseur par principe. Parce que s'il est investisseur par principe, alors on court-circuite les strates inférieures qui parfois sont beaucoup plus à même que l'État d'être de bons investisseurs. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais c'est toujours le tempérament, la modération apportée à l'État, c'est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire de non-intervention de l'État si ce n'est pas nécessaire, mais aussi d'intervention en cas de besoin. Alors après, quand est-ce qu'on définit que sa non-intervention est quand même, là, c'est tout le jeu justement de la négociation politique. Alors, c'est sûr que souvent, on considère que effectivement, l'État a surtout sa place dans des réalités ou des biens qui ne sont pas marchands. Mais là aussi, c'est vraiment des questions d'arbitrage, parce que il peut y avoir des cas où, même si, mettons, la santé est en soi un bien non marchand, ça peut avoir un sens, à tout point de vue, de faire en sorte que ce soit pas, pour cette raison, que ce soit à l'État d'abord de s'en emparer. C'est-à-dire que c'est toujours ça. En fait, c'est pas parce qu'on définit un bien comme étant non marchand que par principe, l'État est légitime à s'en occuper, je dirais, avec un droit de préemption, en premier. Parce qu'il y a des cas où, même avec des biens non marchands, l'État fait n'importe quoi. Donc, en tout cas, agit beaucoup moins bien que ne le feraient les agents non étatiques, les acteurs non étatiques. Donc, on rentre dans ce sur quoi la doctrine sociale ne se prononce pas, et sur laquelle elle ne se prononcera jamais d'ailleurs, parce que là, c'est ce qui relève de la libre détermination de chaque société, et où à la fin la diversité des régimes et des sociétés va justement consister dans la manière qu'aura chaque société de négocier ce type d'arrangement. Et on voit bien que selon les époques, selon les lieux, ça c'est très grave. Et là-dessus, l'Église n'a à intervenir que quand il y a une violation flagrante mais ça, elle dit maintenant, ça vous êtes libre de.
Je pense à un terme en marchant. C'est-à-dire qu'il y a plein de manières.
Tout à fait.
L'État a un minimum de contrôle, oui. Est-ce que c'est lui qui doit. Il peut y avoir que des écoles publiques. Est-ce que. Enfin, il peut y avoir des subventions, des bourses pour des gens. Enfin, bref, il y a plein de configurations possibles.
Tout à fait.
Et c'est pas pareil en Angleterre et en France aujourd'hui.
Tout à fait.
Ces deux pays, on pourrait dire, assez comparables par certains côtés, de démocratie. Et en fait, ils gèrent l'éducation de deux manières très très différentes.
Ah non, c'est pas du tout rôle. Non, et par exemple, le sujet, c'est soit l'État, soit autre chose que l'État, parce qu'on le voit bien, par exemple, je pense à l'Allemagne, où c'est pas l'État qui est compétent, mais c'est pas pour autant la sphère privée, c'est-à-dire que c'est des sphères publiques intermédiaires, et donc il y a quantité de formules possibles. Donc je dirais que sur ce rôle de l'État, c'est pas simplement la vision un peu libérale où l'État doit en faire le moins possible et doit offrir uniquement la possibilité en gros aux commerçants de faire le plus possible de commerce. C'est pas qu'un gendarme, non, mais c'est pas non plus bien sûr une sorte de d'investisseur, c'est pas par vocation le plus grand investisseur du pays, quoi.
Qui serait quoi, un peu le modèle chinois, ça, le modèle d'un capitalisme d'État?
Bah oui, un capitalisme d'État. Alors ça, c'est une formule qu'utilise Jean-Paul II, effectivement, dans Scientisme et Socialisme. Il dit en fait, le socialisme, c'est un capitalisme d'État. C'est-à-dire que si les capitalistes sont les accapareurs, le problème, voilà. Mais d'ailleurs, c'est étonnant de voir la réticence qu'on peut avoir à l'égard de la réalité financière, alors même que cette réalité financière est la même selon que l'acteur soit privé ou public. En soi, en soi, l'État, je dirais, est aussi autant traversé par des logiques financières que n'importe quel acteur privé. Et les finances publiques, sous cet aspect-là, ce n'est pas parce qu'elles sont publiques qu'elles sont plus vertueuses que les finances privées, quoi. D'ailleurs, je ne sais pas, dans la situation actuelle, moi, je me demande comment l'État peut raisonnablement, par exemple, continuer à lutter contre le surendettement. C'est-à-dire que c'est compliqué pour lui. Parce que comme il n'est pas exemplaire du tout dans ce domaine, je trouve ça très compliqué, sauf à vraiment à faire admettre qu'il existe une telle disproportion entre l'agent étatique et les agents privés que, effectivement, ça justifie que l'État soit endetté, mais alors d'une manière qui est complètement... qui paraît...
Ça n'a pas la même signification.
Exactement. C'est plus la même...
C'est pour ça que je dis que l'argent, c'est très difficile de définir le recrutement d'argent. L'argent, il change de... Cette histoire de la dette, je trouve que ça passe pas pour moi.
Ah oui, c'est abyssal. C'est abyssal.
Mais ça change même l'argent de l'argent public. Est-ce que les produits dérivés, par exemple, c'est ce que ça, on pourrait se poser la question. L'usure, on va poser la question. Est-ce que les produits dérivés qui sont un petit peu quand même de l'ordre du pari, est-ce que ça serait, ça peut quand même être récupéré moralement, ou est-ce que les églises nous ont toujours à...
Ben ça, alors il y a des choses dans Économie, il y a des choses assez précises sur certains produits dérivés. Et là aussi, il faudrait voir de quel type de produits dérivés il s'agit, ce qu'ils font, à quoi ils servent. Et donc, mais c'est ça qui est bien, c'est que tu citais justement ces auteurs médiévaux, c'est que dans tous les cas, on ne peut pas s'en sortir autrement qu'en examinant vraiment au cas par cas, alors à quoi a-t-on affaire, et quel type de produit c'est, en quoi est-il... Non. Bah, tout dépend de ce qu'on entend par produit dérivé. Parce qu'il y a des produits dérivés qui peuvent être très, très utiles.
La moralité, la moralité ne sera jamais dans un processus technique en tant que tel, dans un processus mathématique.
Ah non ?
C'est toujours l'agent.
Tout à fait. Alors, il peut quand même y avoir, par exemple, je crois qu'il y a une condamnation du trading à haute fréquence, parce qu'il y a un moment où ça a vraiment plus beaucoup de sens.
C'est l'ordinateur qui...
Et puis, il y a une telle vitesse de... Mais donc, il y a certaines techniques qui peuvent être en soi... condamnable, mais la plupart du temps, c'est plutôt ce qu'on en fait. Quoi. Oui ? Alors, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que est-ce que le marché ne demande pas une certaine échelle, en fait ? Non, c'est une très bonne question pour qu'il reste humain. Parce que là, il n'y a plus besoin de confiance.
La confiance, c'est
des productions
humaines, je trouve que c'est très profond, ta question.
Mais tout dépend encore une fois ce qu'on entend par mondialisation, parce que l'expérience montre aussi que la mondialisation souvent s'accompagne de concentration, en fait, ou plutôt d'acteurs de plus en plus importants. Et donc, si la mondialisation, ça consiste à ce que, je ne sais pas, 7 fonds d'investissement se retrouvent à une table, mais il y en a qui viennent un peu des 5 continents, en soi, la dimension humaine est là. C'est-à-dire que tout dépend encore une fois la forme que prend cette mondialisation. Parce que c'est pas parce que c'est mondial que c'est impersonnel. Parce que sur certains marchés, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Oui, mais en fait, tout dépend à quel moment on se raccroche en fait au marché mondial. Oui, bien sûr, celui qui s'y raccroche, je dirais, par la sphère la plus extérieure, il ne connaît pas du tout. Mais ça, c'est, enfin, c'est pas le tout de la mondialisation, quoi. Je veux dire, c'est... À mon avis, le fait que ce soit mondialisé en soi n'exclut pas qu'il puisse y avoir des relations de confiance. Je pense pas par principe. Parce que, je ne sais pas, moi je ne suis pas très bon connaisseur, mais je crois que sur certains marchés, en fait, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Donc,
certaines matières premières, il y a 3 cycles de production. Enfin, c'est des trucs qu'on trouve dans les composants électroniques.
Voilà.
Et les mecs, ils se connaissent, ils sont au bout de la planète.
Mais ils se connaissent bien.
Moi, j'ai l'impression que ce qui va nous attendre dans les années à venir, c'est une droite qui va venir, d'ailleurs, comme Gabriel, il y a un peu des forces antagonistes. Il y a un mouvement de mondialisation alors, qui est beaucoup porté par Internet, par ce genre de choses. Mais l'écologie fait qu'on va retrouver aussi certaines notions d'enracinement. Hein, la valorisation des circuits courts, la production. Enfin, je pense qu'on est encore qu'au début de ce genre de choses. Hein. Donc, je pense qu'on a deux forces antagonistes, hein, de plus en plus mondialisées, virtuelles, Zoom et compagnie. Et puis de l'autre, on va dire, mais il faut que tu achètes tes produits, à la limite, c'est pas. Si c'est au-delà de 60 km, ça pose des problèmes. Hein, alors qu'est-ce que ça va donner
C'est vous qui savez ça, mais enfin, la déglobalisation, c'est déjà quelque chose d'assez repéré, non? Enfin, je sais pas, comme tendance, comme. Il n'y a pas déjà des. Enfin, comme mouvement de post-globalisation. Quoi.
Je sais pas. Et ça, je trouve que c'est un peu différent par rapport à. Mettons l'époque de Vatican II, où on voyait un peu une espèce de marche en avant.
Oui.
Il n'y avait qu'une force, en fait, qui est justement celle de moyens de communication, moyens de transport, tout ça va de plus en plus vite. Et donc, il y avait juste la mondialisation, qui était un petit peu aussi une déréalisation, une décorporalisation. Et là, je trouve qu'on est dans un autre paradigme, là, et qui est récent, donc, il y a 15 ans, bon, l'époque de cette époque-là. Non, mais c'est vrai, hein, je trouve que l'écologie, ça s'accélère beaucoup depuis moins de 10 ans, en fait. Hein.
Merci beaucoup, Jean-Rémy. Je vous en prie, merci d'être venu.